Pour rester informé tout au long de la journée, écoutez Radio Oméga.
Radio Oméga.
103.9 Ouaga, 104.7 Bobo-Dioulasso. Radio Oméga, le journal. Les titres de l'actualité.
Ibrahim Bayili.
Conférence de presse du gouvernement, le ministre des Affaires foncières donne des éclairages sur la situation à Gargain. Celui de la communication s'est appesanti sur la suspension de France 24. Nouvelle session permanente de la Commission nationale des frontières. L'objectif de ce premier conseil des frontières est d'évaluer la mise en œuvre des actions de gestion des frontières ainsi que des recommandations issues de la dernière session. Et puis l'Union nationale des associations burkinabères pour la promotion des aveugles et malvoyants entend s'approprier le traité de Marrakech relatif à l'accessibilité des textes imprimés aux aveugles et déficients visuels. L'UNABPAM l'a fait savoir au cours d'une conférence de presse. Voilà pour le sommaire, le développement dans un instant. Bonsoir madame, bonsoir monsieur. Le Centre national d'études stratégiques tient un atelier de restitution au ministère en charge de la Défense. Au cours du dernier trimestre de l'année 2022, 5 études ont été faites sur le militantisme des groupes armés terroristes, la géopolitique des drones, la présence des forces étrangères en Afrique, la guerre populaire généralisée et les coopérations. Retour sur la cérémonie d'ouverture tenue le 30 mars 2023 en présence de Joël Souré et Mariam Souma.
Le militantisme des groupes armés terroristes a fait l'objet d'une étude au Burkina au cours du dernier trimestre de l'année 2022. Pour le directeur général du Centre national d'études stratégiques, cela va contribuer à mieux diversifier les réponses face au terrorisme. Général Barthélémy Saint-Poré, directeur général du CNS.
Il y a une étude qui porte sur le militantisme des groupes armés terroristes. Ça va permettre d'avoir une meilleure connaissance de ces groupes-là. Voir comment on recrute, comment ils forment, quelles sont les relations qu'ils ont entre eux, de qui ils répondent, quelles sont les idéologies. Voilà, c'est ça l'intérêt de l'étude. Donc ça va permettre de mieux comprendre, de mieux diversifier les réponses par rapport à cette meilleure connaissance que nous aurons donc des groupes armés terroristes.
La présence des forces étrangères en Afrique et la guerre populaire généralisée ont fait également l'objet d'études par le centre dirigé par le général de brigade Barthélémy Saint-Poré.
Il y a une étude sur la présence des forces étrangères en Afrique, ce qui va nous permettre de comprendre quels sont les pays qui sont en coopération, quelles sont les présences de forces et ce que cela implique pour notre stratégie de sécurité nationale. Il y a une étude sur la guerre populaire généralisée qui est aujourd'hui en Europe, pour savoir quel contenu il faut donner à ce nouveau concept et comment donc faire en sorte que notre pays puisse mettre en œuvre une implication citoyenne adaptée à la lutte contre le terrorisme, de manière à pouvoir donc prévenir des risques liés à ces nouvelles approches.
La géopolitique des drones dans l'espace ouest africain et ce que le Burkina gagne dans les coopérations ont fait l'objet de réflexions. Ce sont donc au total 5 études faites par le CNS, dont 3 seront restituées au cours de ce séminaire qui réunit les partenaires du centre créé en 2020 et qui se veut un outil d'anticipation et de réflexion stratégique.
Le gouvernement renoue avec un de ses exercices de redevabilité. Il s'agit du point de presse du gouvernement sur des sujets d'intérêt national. Pour cette reprise, ce jeudi 30 mars, 2 questions étaient à l'ordre du jour. La première est relative à l'adoption d'un avant-projet de loi portant promotion immobilière en vue d'assainir le milieu du foncier. La seconde porte sur certaines mesures prises par le gouvernement dans le processus de la lutte contre le terrorisme, jugé de restriction de liberté par une certaine opinion. Les détails avec Charles Da et Abdulaziz Zoulabou.
L'actualité de l'enrôlement forcé de certains leaders d'OSC comme VDP et la suspension de la chaîne de télévision française France 24 s'est invitée lors de ce point de presse dans les locaux du service de l'information du gouvernement. Bien qu'attaché au principe de la liberté d'expression, le gouvernement n'entend pas cautionner les pratiques visant selon lui à saper l'effort des forces combattantes engagées sur le théâtre des opérations. Et le porte-parole du gouvernement Jean-Emmanuel Ouédraogo n'est pas passé par quatre chemins pour le signifier.
Les leaders de ACMI toujours recherché que personne n'arrive à localiser, y compris dans les pays d'origine de ces médias, qui rassurent pourtant avoir déployé tous les moyens techniques et technologiques. On voit que les journalistes sont beaucoup plus efficaces que les services de renseignement dans ces pays et arrivent à entrer en contact donc avec des leaders terroristes auxquels ils ouvrent donc leurs antennes pour propager l'idéologie terroriste, l'idéologie de la violence, l'idéologie de la division. Toute chaîne aujourd'hui qui va se faire donc l'écho de ce discours et de cette idéologie terroriste verra sur son chemin les autorités de la transition.
Autre point abordé au cours de cet entretien, il s'agit de l'épineuse question du foncier. Cet avant-projet de loi adopté ce 29 mars vient redéfinir les activités des promoteurs immobiliers. Dorénavant, plus d'opérations de lotissement ou de restructuration de la part de ces sociétés. De plus, les projets immobiliers ne peuvent être réalisés que dans les communes disposant de documents de planification urbaine. Autant de mesures qui pourraient permettre d'éviter des situations comme celle de Garguin qui n'a pas encore livré son verdict. Mikaelou Sidibé, ministre des Affaires foncières et de l'Habitat.
Ce qu'il faut dire, c'est qu'en l'état, ce sont juste des mesures conservatoires qui ont été envisagées à notre niveau, le temps de donner la possibilité de pouvoir échanger sur un certain nombre de questions. Mais il n'en est aucunement question de cautionner les occupations anarchiques, les occupations illégales des terrains.
L'occasion est saisie par Mikaelou Sidibé pour appeler les populations à plus de vigilance dans le processus d'acquisition de terrain.
Le ministère de l'Administration territoriale, de la décentralisation et de la sécurité, à travers le secrétariat permanent de la Commission nationale des frontières, a tenu son premier conseil des frontières ce jeudi à Ouagadougou. Présidé par Apollinaire Kilem, chef du gouvernement, l'objectif de cette première session ordinaire du Conseil des frontières est d'évaluer la mise en œuvre des actions de gestion des frontières ainsi que des recommandations issues de la dernière session. Momouni Tamboura.
Pour cette première session ordinaire du Conseil des frontières, il s'agira de présenter l'état de mise en œuvre des recommandations de la précédente session, présenter l'état d'avancement des dossiers du différent frontalier Burkina-Bénin et des autres dossiers de matérialisation des frontières du Burkina, selon le ministre en charge de l'administration territoriale, le colonel Boukaré Zungrana, notamment les 6 pays limitrophes, mais aussi élaborer les plans d'action de la stratégie nationale de gestion des frontières. Parmi ces recommandations,
sécuriser les ressources dédiées à la gestion des frontières, diligenter la signature des contrats des conseils juridiques chargés de la défense des prétentions du Burkina Faso devant la CIJ, la Cour internationale de justice, en l'affaire Burkina-Bénin. Sécuriser les zones frontalières, améliorer les mécanismes de renseignement et de gestion des conflits frontaliers.
Situé au cœur de l'Afrique de l'Ouest et partage plus de 3000 km² avec ses voisins, le Burkina est confronté à plusieurs défis, notamment la crise sécuritaire et humanitaire et celui de la reconquête et de la sauvegarde du territoire national. Il faut donc faire de ces zones frontalières un espace de développement et d'intégration sous-régionale, selon le chef du gouvernement Apollinaire Kilem. Pour lui, la non-maîtrise de ces zones peut être source de problèmes.
Ces mots sont, entre autres, le développement de la criminalité transfrontalière, les trafics illicites de tous ordres, la persistance et la multiplication des conflits et incidents au niveau des frontières, la persistance du terrorisme dans la sous-région. Fort de ce constat, et en vue d'assurer une meilleure gouvernance de ces frontières, le gouvernement a pris la mesure de la situation en se dotant d'un cadre juridique approprié afin d'exclure désormais les approximations et le pilotage à vue, et ce à travers notamment la création en décembre 2013 de la Commission nationale des frontières, composée d'un organe décisionnel et d'orientation, le Conseil des frontières, et d'un organe exécutif, le secrétariat permanent de la Commission nationale des frontières.
Les résultats attendus au terme de la session est d'examiner et d'adopter le procès-verbal de la dernière session du Conseil des frontières. Cette tribune est un cadre pour évaluer l'évolution des différents dossiers en matière de gestion de nos frontières, d'en tirer toutes les leçons. C'est ainsi que le Premier ministre Apollinaire Kilem exhorte les uns et les autres de la présente session à plus de rigueur dans la proposition des recommandations en vue d'aborder 2023 avec plus de sérénité.
L'UNAPEPAM veut faciliter la lecture aux personnes handicapées visuelles. Pour ce faire, l'Union nationale des associations burkinabè pour la promotion des aveugles et malvoyants s'est approprié le traité de Marrakech relatif à l'accessibilité des textes imprimés aux aveugles et déficients visuels. Le collectif d'associations a organisé une conférence de presse sur la mise en œuvre du traité ce jeudi. Plus de détails avec Nadège Yabré et Denis Ongrana.
Promouvoir le droit de lire et de réussir au profit des personnes handicapées visuelles, telle est l'ambition de l'Union nationale des associations burkinabè pour la promotion des aveugles et malvoyants et de son partenaire, l'ONG Light for the World, qui entend mettre à profit les facilités offertes par la technologie. Depuis juin 2020, ils mettent en œuvre un projet dénommé Solution TIC Accessible, qui a permis de rendre plus de 500 ouvrages pédagogiques accessibles, de former 500 élèves et étudiants et de les doter d'appareils de lecture adaptés. En plus, un guide du traité de Marrakech a été élaboré. Suzanne Tapsoba, directrice de l'UNAPEPAM.
Le guide a pour ambition d'expliciter les articles importants du traité et de clarifier certains concepts clés afin de favoriser une compréhension parfaite et uniformisé, limitant toute forme d'interprétation. Il a pour vocation de donner des orientations sur les solutions TIC accessibles à capitaliser pour la production, la diffusion et le partage d'ouvrages et publications accessibles au profit des personnes handicapées visuelles.
Cette conférence de presse a été l'occasion pour l'UNAPEPAM de faire des recommandations au gouvernement pour une meilleure inclusion des personnes déficientes visuelles. Alassane Dilboudou, secrétaire général adjoint de l'UNAPEPAM.
Lors de la conception et édition de nouvelles ressources pédagogiques, il faut tenir compte des personnes empêchées de lire les documents imprimés. Inclus dans le trousseau des élèves handicapés visuels, les lecteurs audio des livres numériques, les tablettes Android ainsi que le papier braille. Prendre les dispositions pour rendre les examens et concours scolaires inclusifs. Équiper les centres ressources de l'éducation des élèves handicapés visuels en matière informatique adaptée et en accès Internet tel que le ministère a bien voulu le faire pour l'UNAPEPAM.
Le traité de Marrakech a été adopté le 27 juin 2013 sous l'égide de l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle. Les personnes bénéficiaires sont celles qui souffrent d'un handicap les empêchant de lire les textes imprimés.
Soirée Barka, c'est le nom attribué à la soirée du PNUD organisée hier pour le programme des Nations Unies pour le développement et il s'est agi de traduire sa reconnaissance et sa gratitude à l'ensemble de ses partenaires, des partenaires qui mènent avec le PNUD des actions au profit des personnes vulnérables du Burkina Faso, surtout en cette période de crise sécuritaire et humanitaire. Mouni Tamboura et Fawzia Zongo pour le compte rendu.
Comme une histoire, c'est sur ce thème que s'est tenue la présente cérémonie, comme pour eux, de matérialiser l'histoire entre le PNUD, le Burkina Faso et son peuple. Objectif principal, améliorer l'état de droit, la croissance inclusive et durable tout en promouvant le développement économique par la création d'emplois et d'assurer la sécurité alimentaire. Dans un climat de paix et de cohésion sociale, a laissé entendre Elsie Laurent Chounoun, représentante résidente du PNUD. C'est tout l'essence poursuivi donc par le programme des Nations Unies pour le développement. Plusieurs secteurs d'activité ont vu leurs économies boostées par de divers programmes, en témoignent des témoignages recueillis par une série de projections vidéo. Les bénéficiaires qui se sentent d'ailleurs soulagés ont fait des recommandations. Elsie Laurent Chounoun dit prêter oreille attentive.
C'est normal qu'ils le demandent parce que le développement, il faut qu'il soit durable. Ça veut dire qu'il faudrait qu'on puisse vraiment s'appuyer sur des partenariats clés et efficaces qui continuent dans le temps pour pouvoir le faire. Et c'est pour ça aussi qu'il faut qu'on fasse pas de l'assistanat, mais qu'on fasse un développement qui se base sur un renforcement de capacité de manière à ce que les bénéficiaires puissent eux-mêmes contribuer à leur développement sans avoir besoin de l'aide du PNUD.
C'est donc pour ce programme de rendre les communautés et les institutions plus résilientes à travers l'inclusion pacifique et sur la voie d'une croissance économique durable. Cet aspect ne peut que réjouir le ministre de l'économie, des finances et de la prospective, Aboubakar Nakanabo, président de la présente soirée.
Vous avez tous suivi les témoignages des populations. Vous avez vu que le PNUD intervient donc à plusieurs niveaux, que ce soit au niveau de la santé, de l'éducation, au niveau de l'agriculture, de l'élevage, au niveau du petit commerce et même au niveau de la digitalisation de nos structures. Et nous apprécions fortement donc cette contribution.
Le programme des Nations Unies pour le développement intervient au Burkina Faso depuis 1966 et vise à contribuer à une société inclusive, pacifique et d'offrir un espace favorable à une croissance économique durable. Des certificats ont été livrés à Alif Naba et à Malika Laslamazou. Ils sont désormais ambassadeurs nationaux de bonne volonté du PNUD au Burkina.
La revue de presse.
Nos quotidiens du jour nous parlent de la reprise des relations avec la Corée du Nord, une coopération qui permettra l'octroi au Burkina Faso d'équipements et de matériel militaire. Il est aussi question de l'appel du Conseil supérieur de la communication aux autorités pour assurer la sécurité des hommes de médias. Au-delà, l'Express du Faso interpelle la justice à poursuivre avec les condamnations devant les tribunaux dans cette lutte contre ces propos haineux et dangereux. La revue de presse est signée à l'Inter.
Diplomatie à la une de nos quotidiens. On parle aujourd'hui de la reprise des relations avec la Corée du Nord. Le Conseil a même approuvé un agrément pour la nomination d'un ambassadeur de la République populaire démocratique de Corée auprès du Burkina Faso. Une reprise des relations diplomatiques avec la Corée qui permettra à ce pays d'Asie de l'Est et au Burkina Faso d'entretenir une coopération bilatérale exemplaire dans plusieurs domaines comme le secteur de la sécurité à travers l'octroi à notre pays d'équipements et de matériel militaire, mais aussi dans les secteurs des mines, de la santé, de l'agriculture et de la recherche, explique Olivia Rwamba, ministre en charge des Affaires étrangères. Autre actualité, l'appel du Conseil supérieur de la communication aux autorités burkinabées pour assurer la sécurité des hommes de médias face à la récurrence de menaces proférées à l'endroit d'organes de presse et d'acteurs des médias dans l'exercice de leur profession, peut-on lire dans le journal Le Quotidien. Dans la même dynamique, l'Express du Faso interpelle la justice dans cette lutte contre ces propos haineux et dangereux et pense qu'il faudrait poursuivre avec les condamnations devant les tribunaux, tout en l'intensifiant de manière à être plus sévère à l'endroit de tous ceux qui continueront de proférer des propos de ce genre, lance Le Quotidien Bobolais. L'Express du Faso interpelle également le gouvernement à prendre ses responsabilités et s'assumer entièrement avant que le pire n'arrive, car il sera tenu de tout débordement dans ce sens. Hors de chez nous, l'observateur Palga pose le regard sur la situation au Sénégal. Ousmane Sonko et le président Macky Sall ne se parlent plus que par la rue interposée, fait remarquer mon confrère. Mon confrère craint d'ailleurs des heurts, comme ce fut le cas début mars avec les manifestations violentes à Dakar et dans d'autres villes du Sénégal qui ont fait 13 morts et des centaines de blessés. Comme ce sera encore probablement le cas ce jeudi avec le retour dans la salle d'audience d'Ousmane Sonko. Un procès qui d'ailleurs ne relève pas de la politique, mais du droit, fait remarquer l'observateur Palga, pour qui, s'il est vrai qu'Ousmane Sonko pourrait dire adieu à ses ambitions présidentielles à l'issue de ce procès, le doyen des quotidiens est cependant convaincu qu'il aurait largement contribué à tresser la verge avec laquelle le premier magistrat sénégalais est en train de le flageller et ne pourrait s'en prendre finalement qu'à lui-même.
L'invité du jour. L'invité du jour.
Yaminge Betibaï, bonjour.
Bonjour Bruno Bayana.
Après les manifestations du 20 octobre 2022, quelle est l'actualité récente aujourd'hui au Tchad?
L'actualité récente du Tchad est marquée notamment par la grâce présidentielle que le président de la transition a accordée à 380 éléments des FACT. Le FACT étant le Front pour l'alternance et la concorde au Tchad. Un groupe rebelle dirigé par M. Mahdi. On se souvient de ce groupe comme étant celui contre lequel l'armée tchadienne avait lancé une offensive militaire en avril 2021 et qui s'était soldée, entre autres, par la mort de l'ancien président tchadien, le maréchal Idriss Déby Itno.
Parlons justement de la grâce présidentielle. Comment cette décision du président a été accueillie par les populations?
Diversement reçue par l'opinion publique au niveau du Tchad. Pour beaucoup, c'est plutôt un sentiment ou une expression de reconnaissance, d'un signe d'apaisement lancé par les dirigeants de la transition en graciant les éléments des FACT. Donc, on estime que c'est une décision qui pourrait apaiser les tensions parce que, entre autres, à la fin du dialogue national, le président de la transition avait déjà annoncé sa volonté d'amnistier, de libérer les prisonniers de guerre. Donc, cette grâce rentre un peu dans cette logique. L'appréciation paraît diversifiée en ce sens que s'il était question de militer pour un apaisement, la grâce présidentielle pour les éléments du fact aurait dû s'étendre à l'ensemble des éléments du fact qui ont été jugés et condamnés. Sauf que à peu près 55 des éléments du fact ne font pas partie de la liste des éléments graciés. Sur cette cinquantaine, il y a le chef du groupe, M. Mahdi Ali, il y a aussi 17 personnes qui sont considérées comme des responsables du groupe.
Alors, le président promet de libérer tous les prisonniers politiques. Et selon vous, pourquoi Mahdi Ali, le chef du Front pour l'alternance et la concorde au Tchad, n'a pas bénéficié de cette grâce présidentielle?
À ce niveau que le bât blesse. Parce que si la volonté, tant était la volonté d'apaiser, cette grâce présidentielle aurait dû s'étendre à l'ensemble des éléments du fact. Parce que, figurez-vous, le Tchad se trouve présentement dans un contexte où des efforts diversifiés continuent d'être menés pour créer un consensus, une inclusivité autour du processus de transition. Parce que jusqu'à présent, il y a beaucoup d'acteurs, parmi lesquels des acteurs majeurs, comme le FACT notamment, mais aussi comme le Parti Les Transformateurs, comme la coalition Wakitama, et comme bien d'autres entités qui sont jusqu'aujourd'hui restées en marge du processus. Parce qu'ils ont exprimé des points qui n'ont jusqu'à présent pas été pris en compte. Alors, dans un tel contexte, si la grâce présidentielle s'étendait à l'ensemble des acteurs du FACT condamnés, cela pourrait ressembler vraiment à une dynamique de renouer le dialogue. Parce que si le FACT avait la volonté de venir s'asseoir à la table des négociations, ce n'est pas parmi les 380 graciés que le Front irait chercher ses représentants pour discuter. Ce serait sûrement parmi ces chefs, donc les 17 qui n'ont pas été graciés, qui sont toujours condamnés. Et c'est naturellement le chef Mahdi qui est condamné par contumace contre lequel un mandat d'arrêt est même lancé. C'est celui-là qui viendrait s'asseoir à la table des négociations. Donc ne pas le gracier, c'est autant le mettre en marge des négociations de façon presque automatique, parce que quelqu'un contre lequel on a lancé un mandat d'arrêt ne viendrait pas s'asseoir à la table des négociations.
Est-ce que cette grâce présidentielle serait perçue comme un intérêt politique ou encore une mesure d'apaisement social?
D'emblée, beaucoup de voix s'élèvent pour estimer que la grâce présidentielle accordée par le président de la transition aux 380 éléments de fact reste quelque chose de marginal, reste juste peut-être une tentative de montrer sa bonne foi alors qu'il n'y a pas de bonne foi à la base.
Au regard de toutes ces brouilles sociales, qu'est-ce que les populations attendent aujourd'hui de la transition?
Je vous avoue que les attentes de la population tchadienne restent pratiquement similaires du nord au sud. C'est plus de justice, c'est une meilleure gouvernance que ce qui a été observé jusqu'à présent. Et puis, c'est aussi une volonté de voir une vie politique nationale animée par l'ensemble des acteurs. La population aurait voulu qu'il y ait un jeu politique ouvert où tous les acteurs clés, depuis peut-être l'actuel président de la transition jusqu'à des acteurs comme le président des transformateurs Massra Succès, que tous ces acteurs soient en train d'être actifs dans la vie, dans le jeu politique. C'est cela l'attente de la population.
Merci à vous Yamingé Betibaï d'avoir répondu aux questions de Radio Omega.
Merci Bruno Bayena de m'avoir reçu sur votre plateau.
Edwige Tendrebego a réalisé ce journal. Je suis Ibrahim Baïdi, direct web assuré par Yaya Diomandé. Excellente soirée en compagnie des programmes d'Omega Média.
Radio Omega, l'info en direct.